France Musique.
Et l'heure, comme chaque semaine, chaque samedi, de tendre l'oreille avec Christophe Dillis. Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel.
Batman, à l'aide!
J'arrive, Robin! Je savais que le Riddler allait nous tendre un piège.
Vous l'aurez compris, Gabriel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fait de surjouer. On sait tous qu'un acteur qui surjoue au théâtre, à la télévision ou au cinéma, ça déconcentre un peu et ça empêche de profiter du texte.
Et vous vous êtes dit, Christophe, et en musique, est-ce que c'est la même chose?
Oui, bah voilà, vous commencez à connaître les clauses de mon contrat. Je suis quand même obligé de parler un peu de musique
chaque
semaine.
On est quand même dans le même bureau aussi toute la semaine.
Voilà. Et je me suis posé la question, ce serait quoi surjouer en musique? Un des premiers à dénoncer le fait de surjouer, c'était il y a très longtemps, et c'était comme d'habitude quand c'est intelligent, Platon. J'ai passé la nuit dans mon vieux manuel de grec ancien pour retrouver le passage. Oui, vraiment, en plus.
En plus de votre flûte.
Oui, voilà, ouais. Pour retrouver le passage, c'est dans le dialogue Ion entre un poète et Socrate qui lui pose la question.
Lorsque tu déclames des vers épiques et que tu émeus au plus haut point les spectateurs, alors as-tu tous tes esprits ou bien es-tu hors de toi-même?
Et Ion lui répond, quand je déclame un passage qui émeut la pitié, mes yeux se remplissent de larmes. Et là, Socrate rigole et lui dit, oui, enfin, tu n'as pas de réelle raison de pleurer, donc tes émotions sont factices. Ce qui, à mon avis, ne va pas produire une réelle émotion chez les spectateurs. Et c'est là où c'est intéressant. Socrate dit qu'un poète est possédé par les dieux. Il est inspiré, il est enthousiaste, dans le vieux sens du terme. Il doit se faire le transmetteur entre l'inspiration divine du texte et le public. Et donc, sans surjouer, sans se mettre en travers de la route, il doit être un véhicule. Je nous ai amené un peu de Chopin, Gabriel, pour faire l'expérience. On va pouvoir écouter ça ensemble. C'est la valse en la mineur de l'opus posthume. J'ai trouvé là une version absolument neutre. Là, il n'y a rien, il n'y a que les notes de Chopin. Mais ce n'est pas non plus ce que Chopin veut. La pièce a besoin d'être interprétée, sinon c'est très mort. On va maintenant voir ce que ça donne avec du rubato. Le rubato, ça vient du terme italien pour voler. On vole du temps au temps pour ensuite le restituer. Donc, on accélère ou on ralentit la mélodie pour ensuite retomber sur ses pieds. Voilà, là c'est très bien fait, la pianiste Laure Favre-Kahn rend le temps qu'elle a dérobé. Mais si on navigue mal la fine ligne entre jouer et surjouer, alors le pianiste se met entre l'inspiration divine de Chopin et le public. Le pianiste se retrouve à pleurer ses propres larmes à lui, mais pas celles du compositeur. Ce qui nous empêche d'être réellement ému en tant que spectateur, parce que ce ne sont pas les larmes réelles du morceau joué. Le rubato surjoué ici empêche d'être ému parce que le pianiste cherche trop à exprimer sa propre émotion, selon Platon en tout cas.
Excusez-moi de vous interrompre, Christophe. Est-ce que c'est valable pour tous les instrumentistes? Ok, mais est-ce que c'est aussi valable pour les chefs d'orchestre?
Oui, c'est un peu différent pour les chefs. Le curseur n'est pas au même endroit. Un chef qui dirige ne produit pas de son, il doit le susciter. Il doit, par ses gestes, diriger les musiciens vers l'inspiration divine du compositeur. S'il dirige de façon à peine plus neutre, eh bien, ça va donner de la part de l'orchestre un son un peu désincarné, pas très intéressant. Prenez cet extrait du poème de l'Extase de Scriabine, dirigé par un élève de direction. Voilà, là c'est On le voit pas à la radio, mais l'élève fait des gestes efficaces, ça s'entend, c'est plutôt habité, mais c'est aussi très sage. Et maintenant, c'est le chef russe Valery Gergiev qui monte au podium, qui lui montre comment surjouer pour obtenir de la part de l'orchestre une vraie émotion. Le chef a le droit et presque le devoir de surjouer, de pleurer toutes les larmes factices du monde pour incarner devant les musiciens l'inspiration divine du compositeur et ainsi permettre aux instrumentistes de l'orchestre de ne pas faussement pleurer mais d'exprimer les vraies larmes de la partition. Voilà, Valery Gergiev avec le poème de l'extase. C'est pas une version de concert, il fait pas autant de bruit devant le public.
On s'en doute. Enfin non, on va peut-être faire entendre l'oreille là-dessus aussi. Merci Christophe Dillis.
Bonne semaine.
Bonne semaine, on réécoute votre chronique Tendez l'oreille sur le site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.